signé à nouveau sur FM+, les animateurs de l'association Profil pour cette émission de mars 2021. Sur notre écran, Ariel Daumont, bonjour.
Bonjour.
Claude Bonnet, bonjour à vous Claude.
Bonjour Guylaine.
Dans mon bureau à mes côtés, Alain Lafont, bonjour.
Sous haute surveillance, merci beaucoup.
Au programme, trois films pour nos trois animateurs. Le premier, Aga de Milko Lazaroff. Le second sera Dieu seul me voit. Non, pardon, L'amant d'un jour de Philippe Garrel. Et pour terminer, Dieu seul me voit de Bruno Podalides. On lance tout de suite la bande-annonce de Aga de Milko Lazaroff et nous écouterons Claude Bonnet qui l'a vu. Claude Bonnet, à vous pour Aga.
Alors, Aga, c'est un film donc qui est sorti fin 2018. C'est un film, c'est une coproduction franco-germano-bulgare et le réalisateur est un bulgare qui s'appelle Milko Lazaroff, qui est né en 1967. Il est aussi scénariste et acteur. Il a fait des études de cinéma et des arts de la scène à Sofia. Il a commencé ensuite à réaliser des documentaires pour la BBC et son premier film qui s'appelle Aliénation remonte à 2012. C'est un film qui a été, que je n'ai pas vu, je pense que je me demande même s'il est sorti en France. Il a été primé à Venise. Son deuxième film dont nous allons parler a été primé dans de nombreux festivals secondaires, on va dire, sans être péjoratif. Et notamment, il a obtenu le Swan d'Or, donc le meilleur film au festival de Cabourg en 2018. Alors, ce film se situe dans une contrée qu'on ne connaît pas, dont j'avais personnellement jamais entendu parler. C'est le nord-est de la Sibérie. C'est un pays donc, qui s'appelle la République de Saka, ou aussi s'appelle la Yakoutie. C'est une ancienne partie de l'URSS. Hein. Et évidemment, c'est toujours sous la pression, je trouverai mes mots, donc de l'Union de la Russie, évidemment. Alors, c'est à la fois un petit pays par la population, puisqu'il y a 1 million d'habitants, mais c'est un immense pays par la surface, puisque c'est un pays qui est presque aussi grand que l'Inde. Évidemment, c'est tout près du cercle polaire, donc il y a des températures vraiment extrêmes qui peuvent atteindre les moins 70 degrés. Je ne sais pas si j'ai du mal à imaginer ce que ça peut être. Et le film donc a été tourné en début 2018, au printemps, si on peut employer ce mot dans ces pays, puisque la température moyenne était de 40 degrés. C'est un film qui rend hommage à un vieux film de 1921 de Robert Flaherty, qui s'appelait Nanook l'Eskimo. Et c'est le nom du personnage principal, donc il y a très peu de personnages dans ce film. Alors, de quoi ça parle? C'est l'histoire d'un couple d'une cinquantaine d'années qui vit dans une yourte complètement perdu dans ce grand nord. Leur seul compagnon, c'est un chien. Ils ont deux enfants, donc un garçon qu'on verra vers le milieu du film, qui vit dans la ville principale de ce pays, et il y a également une fille donc, qui est le titre du film, qui s'appelle Aga. C'est à la fois un film, tout au moins dans sa première partie, qui est un documentaire, c'est-à-dire qu'on voit la vie de ce couple dans son quotidien. Alors, il y a les scènes en dehors de la yourte, c'est surtout l'homme, Nanook, qui va à la chasse, qui va à la pêche, mais qui malheureusement ne trouve plus grand-chose puisque les poissons se font rares, comme les rennes d'ailleurs. Et on le voit aussi donc avec son épouse, faire les travaux du quotidien, c'est la vie donc de tous les jours, avec une entraide, chacun a ses spécificités, ses particularités, si on peut dire. Il y a aussi du travail qu'ils réalisent ensemble. Et c'est ainsi que passent les jours, jusque, comme je vous le disais tout à l'heure, donc à l'arrivée de ce fils qui va être le déclencheur. Mais je ne vais peut-être pas vous raconter la suite de l'histoire.
Ariel, vous voulez intervenir ?
Alors oui, c'est intéressant de voir qu'il a le même prénom, donc Nanook, que ce personnage du film de Flaherty. C'est comme si c'était ces personnages qu'on a vus enfants dans le film de 1920 qui sont maintenant vieux, tellement vieux, parce que, bon, tu dis qu'ils doivent avoir une cinquantaine d'années. Ils sont quand même usés par cette vie sauvage et ils font partie d'un monde en voie de disparition. Hein. On a vraiment l'impression qu'ils sont les derniers à vivre sur cette banquise.
Alain, un commentaire ?
Ben oui, j'ai été pris par ce film, non pas congelé, mais réjoui de voir comment cette nature divisée en deux, le ciel en haut, bleu, avec parfois des traînées d'avion, et la neige, et c'est, j'ai remarqué, me semble-t-il, toujours au milieu. La yourte est parfois là, quand les gros plans se font sur le travail ou sur le déplacement des personnes, oui, mais alors, il ne faut surtout pas oublier le bruit du vent. Tout est plat, sauf un endroit où il y a des rochers très escarpés, sculptés, si on peut dire, éclatés plutôt par le gel, c'est normal, c'est la géliefraction.
C'est des falaises, hein ?
Pardon ?
C'est des falaises, plutôt.
Ce sont des falaises, oui.
C'est haut, quand même.
Provoqué par le délitement du gel, ceci. Et tout est plat, sinon, il n'y a que ça. Et puis, alors, il y a le fameux trou. Le petit trou dans la glace, et à la fin, le grand trou, mais je laisse ça à Claude.
Oui, c'est pas comme dans la chanson de Gainsbourg, il y a des petits trous, mais il y a aussi des grands trous. On n'est pas chez le poissonneur des lilas, effectivement. Oui, cette falaise, d'ailleurs, a un rôle, on ne parle pas trop de religion dans ce film, mais je pense que c'est surtout des histoires de chamans, ou des choses comme ça, et on a l'impression que c'est un peu un lieu sacré, cette falaise, donc, sous laquelle, oui, Nanook va chercher des pierres qui lui serviront donc pour pas mal de choses. Mais c'est vrai que c'est surprenant. Enfin, moi, j'ai été surpris de trouver un spectacle minéral dans ce désert de glace.
Et c'est l'endroit où le renne apparaît de loin ou de très loin, et il joue un rôle très important dans cette mythique.
Oui, parce qu'il y a la vie, il y a le rêve, il y a aussi les histoires traditionnelles que racontent les personnages, et tout ça, c'est quand même sur un fond de mélancolie, parce qu'effectivement, c'est la fin d'une vie pour ces gens, et une nouvelle vie qui a commencé pour leurs enfants. Et on est dans une période, il me semble, de transition, et c'est ce que veut démontrer un peu ce film. Et c'est pour ça qu'il y a cette mélancolie de ce temps de ces gens donc qui ne sont plus, parce qu'on a quand même l'impression aussi que cette yourte, elle est toute seule, perdue dans l'immensité, mais on peut s'imaginer qu'effectivement, il y a quelques années encore, quand il y avait des rennes et des poissons, autrement dit qu'il y avait la possibilité de survivre en autarcie dans ce coin, c'était un village, un petit village, c'était quelques familles qui étaient regroupées là et qui aujourd'hui évidemment ne sont plus, et qui, ce qu'on comprend sans leur révéler à la fin du film, n'existeront plus.
Alain,
la musique n'est présente qu'au début, pendant 2-3 minutes, j'ai mesuré, et après il n'y en a plus. Ce qui fait que l'homme ou le spectateur se retrouve face à la nature, à la dureté de la vie dans ces régions, et comme tu viens de le dire, à la disparition progressive de ce genre de vie. D'ailleurs, comment peuvent-ils tenir ? Ça, c'est un autre aspect. C'est parmi les derniers nomades, ceux du désert ont disparu, désert chaud, j'entends, et là, c'est le désert froid.
Est-ce qu'on arrête là pour ce premier film ? Ça vous convient ? Où est-ce qu'il vous a... Ariel, vous auriez un autre commentaire à faire?
Moi, je pense qu'il faut quand même souligner effectivement la beauté de, du tournage, enfin des images, la façon de tourner à l'ancienne, hein, puisque c'est un écran qui est très étiré et il a tourné ça en 35 mm en argentique parce qu'il disait, il a dit que c'était une façon de d'étirer le et de on voit les angles arrondis sur ce sur cette image et on a l'impression oui que l'horizontale est infinie quoi, c'est ça donne un espace et c'est pour ça que dans nos yeux ça nous ouvre vraiment au cadre maximum possible de l'image et ça c'est une expérience vraiment fabuleuse je trouve.
Une dernière précision à propos de la musique. À un moment on entend la musique de Mahler et le père dit « Cet homme a dû beaucoup souffrir pour écrire une telle musique. »
Oui, et il dit aussi…
C'est ça notre conclusion.
Oui, non, il dit aussi que la musique voyage à travers les airs. Ça m'a beaucoup plu. Je trouvais ça vraiment très poétique.
Merci à tous les trois pour ce partage sur ce film « Aga » de Vilko Lazarov qui est toujours disponible sur Arte TV et cela encore pour quelques semaines. Nous passons au deuxième film, Dieu, l'amant d'un jour de Philippe Garrel. On écoute la bande-annonce. L'amant d'un jour, qui se charge de cette présentation? C'est vous, Alain.
Merci.
On vous écoute.
C'est donc un film de Philippe Garrel, un monsieur, un vieux de la vieille, si je puis dire, qui a commencé à 16 ans. Comme stagiaire, grâce à son père qui était dans le cinéma. Il a réalisé quand même 28 longs métrages. Il a 70, bon, et quelques poussières, quelques printemps peut-être. Il est passé par toute l'évolution du cinéma, y compris dans les recherches les plus expérimentales, c'est-à-dire pas de scénario, ce qui d'ailleurs lui permet de filmer les corps et de faire passer beaucoup d'éléments, de sentiments par les corps. Puis progressivement, il est venu au scénario et pour lui, son maître, c'est Godard. C'est un film familial. Il a toujours travaillé en famille. Quand il était jeune, à 20 ans, il a fait tourner son père. Après, il a fait tourner ses deux enfants, mais il a d'abord laissé ses enfants tourner avec d'autres personnes pour ne pas les influencer, pour ne pas être trop sur leur dos. Le père et le réalisateur, ça fait trop en même temps pour des enfants. Et c'est pour ça que les deux principaux personnages sont son fils et sa fille. Et c'est sa fille qui a choisi la troisième personne, Ariane, parmi des élèves du conservatoire. Donc c'est elle qui l'a choisi. Maintenant, ce film est dédié à François Garrel. J'ai vainement cherché, je pense qu'il est de sa famille, et j'ai vu qu'il y avait un Garrel musicien. Alors, que raconte le film ?
On ne connaît pas la famille, hein, donc on ne peut pas dire.
Pardon ?
On ne connaît pas personnellement cette famille, alors on peut pas t'aider.
Garrel ?
Oui.
Oui, il est très discret, très très discret.
Oui.
Bon. Voici donc le thème. En pleine rupture, une jeune femme, Jeanne, trouve refuge chez son père, Gilles, qui est en couple avec une étudiante, Ariane. Amour et amitié féminine, tourmentée, tout ceci dans ce film de Philippe Garrel, d'une frémissante justesse, et qui clôt une trilogie sur ce même thème, avec d'abord Jalousie en 2013, et ensuite L'ombre des femmes en 2015. Depuis une dizaine d'années, il travaille sur l'exploration des variations des sentiments amoureux, leur fugacité, mais en même temps aussi l'éclat de la jouissance. C'est un film en noir et blanc, c'est une véritable épure. Il y a des tableaux, plutôt des plans-séquences, qui rappellent des tableaux très célèbres de femmes allongées sur des lits. Et c'est la ronde éternelle d'embrasement et de crépuscule dans les sentiments.
Et voilà une présentation digne de ce nom. Qu'auriez-vous donc à rajouter, Ariel et Claude ?
Effectivement, c'est toujours un peu les mêmes thèmes qu'on retrouve chez Garel, hein, dans tous ses films depuis ses débuts. Mais là, ce qu'il y a de particulier, je trouve, c'est cette espèce de trio amoureux qui fait référence, d'après Garel, évidemment, au complexe d'Orès. Alors, le complexe d'Orès, qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est le pendant, si je puis dire, du complexe d'Œdipe. Pour les filles. Alors ça remonte quelques, comment dirais-je, l'histoire. Il faut remonter à l'histoire grecque, hein, à
la guerre de Troie. 5e siècle avant Jésus-Christ.
Voilà. Donc voilà. C'est l'histoire d'Agamemnon qui revient de la guerre de Troie, et qui se fait assassiner donc par sa femme Clytemnestre qui avait un amant Électre, donc sa fille, avec son frère, Oreste, donc, ont tué à leur tour donc cette mère et son amant. Voilà, c'est la vengeance. Donc, effectivement, on retrouve les trois personnages entre le père, sa fille et son amante, l'amante du père, et ce qui commence donc par une espèce d'amitié entre les deux femmes, à la fin va arriver par l'exclusion, le rejet donc de la fille de l'amant. Voilà.
Je voulais parler du découpage du film et ne pas donner forcément ce que tu viens d'indiquer. Dans la première partie, donc, on voit la mise en place de la situation. Et elle se termine, cette partie, quand Ariane, devant son amant et la fille de celui-ci, prend une décision que je ne présente pas. Deuxième partie, c'est la relation essentielle entre les deux femmes. Elles se soutiennent mutuellement, elles s'entendent, elles se comprennent, elles ont à peu près le même âge, et ça conduit au dénouement qui se fait en 6 minutes, juste à la fin. Alors, si je me permets une allusion littéraire, ça pourrait rappeler un peu Le Rouge et le Noir, où la fin du Rouge et du Noir est en 2 pages sur 250 ou 300 pages.
Ariel ?
Oui, c'est intéressant parce que je, dans le découpage, oui, j'avais pas... je n'avais pas calculé ce jeu mathématique entre les trois personnages. Moi, j'ai surtout vu la relation père-fille et la relation des deux femmes, les rapprochements, les éloignements. Et je préférerais parler de l'image. On a parlé de l'image de ce noir et blanc magnifique. Moi, j'ai beaucoup aimé esthétiquement une scène de danse quand elles sortent dans un endroit, peut-être, je sais pas, dans une boîte où les deux filles dansent et on voit des plans de corps, de visages qui se rapprochent, qui s'effleurent dans une musique un peu lascive. Et c'est très, très beau, très, très épuré. C'est vrai que c'est une magnifique image, en tout cas pour ce passage-là.
Oui, alors Ariel, ça rejoint ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire que dans ses tout premiers temps, il filmait sans scénario, donc il devait se servir des corps ou des regards pour mieux faire passer ce qu'il voulait. Et là, il continue à l'utiliser en le maîtrisant, je dirais pas mieux, mais en continuant à le maîtriser, et cette fois avec un scénario.
Et ça doit être quand même aussi des moments d'improvisation, je pense. Il laisse un peu la tête.
Là, je ne l'ai pas lu. Alors, je ne sais pas s'il a laissé quand même quelques libertés à celui qui joue, donc, pas le père, puisqu'il n'est pas, c'est pas de sa famille, hein. C'est un ex-Éric Caravaca qui joue.
Éric Caravaca, oui.
Et parce qu'il est dans une situation de retrait, de, je dirais pas de soumission, mais d'acceptation de certaines situations. Sa fille, Jeanne, c'est Esther Garel, donc c'est la fille du réalisateur, et l'amante Ariane, donc comme je l'ai dit, a été choisie par Esther. J'ai trouvé que le titre du film est un pied de nez, l'amant d'un jour. Je ne vois pas ce qui permet dans le film de dire un jour. L'amant, oui, ça c'est sûr, mais un jour. Vous, qu'en avez-vous pensé?
Moi, j'ai eu un peu de mal à m'intéresser à ces trois personnages, je dirais. Ils m'ont un peu énervé.
Le père. Une femme, hein. Tu es une femme.
Oui, mais enfin, je ne me reconnais pas en tout cas. Hein. Bon, le père qui est un peu, oui, effectivement, un peu éthéré. Enfin, il n'est pas vraiment impliqué dans sa vie, on dirait. Et les deux femmes qui ont des crises de jalousie, le mensonge, la tentative de suicide. Enfin, il y a tout. Il y a tout ce qu'il faut pour faire une femme hystérique, quoi. Et ça m'a un petit peu énervée.
Bon, alors je ne sais pas s'il y a jalousie entre les deux, mais ce qui est sûr, c'est que ces deux femmes veulent vivre leur amour de façon intense. Jeanne, qui vient d'être abandonnée par son fiancé, ce qui me fait d'ailleurs sourire, employer le mot de fiancé actuellement, alors qu'ils vivent ensemble, bon... Ne jouant pas sur les mots, elle a une soif d'absolu. Par contre, Ariane, elle est remplie de désirs débordants. Et c'est là où j'ai pu dire qu'il y avait donc ces sentiments amoureux qui sont très bruyants, très vifs. Gilles, lui, par contre, il est dans une position où il voudrait quelque chose apparemment d'impossible, je ne dis pas laquelle, il voudrait être bien tranquille dans sa vie,
ouais,
et ne pas avoir les conséquences de cette relation, ou certaines conséquences de cette relation, sans vouloir les préciser, aux spectateurs de le voir. Et je termine par une question, selon vous, quel est le personnage principal du film?
Une question qui restera peut-être sans réponse, parce que je crois bien qu'il nous faut un peu avancer, à moins que Claude, vous vouliez faire une dernière...
Pour répondre à sa question, comme ça, instinctivement, je dirais que c'est la fille.
Mais, moi aussi, je pense.
C'est celle qui fait avancer les choses, enfin, qui est au départ, et elle est arrivée. Mais ce que je voudrais dire, c'est que moi, ce que je retiens sur ce film, je trouve que c'est un très beau film sur à la fois le désir et le plaisir sexuel des femmes, avec deux héroïnes donc qui s'opposent un peu finalement, et on comprend qu'à la fin, finalement, c'est la plus jeune qui gagne. Il y a des scènes effectivement, comme disait Ariel, qui sont gravé un peu dans ma mémoire. Il y a effectivement cette scène de danse qui est très réussie. Et il y a aussi les rencontres donc avec les étudiants quand ils discutent dans les cafés, des choses comme ça. Tout ça, ça transpire la réalité, si je puis dire. Et c'est là qu'on peut penser qu'effectivement, il y a une part d'improvisation.
Oui. Alors, pour Philippe Garrel, il dit dans
son interview… Là, tu n'en finis pas de finir, en fait.
Oui, mais là, non, c'est important. Pour lui, il y a égalité des sexes. Mais entre l'homme et la femme, il y a un mur. Donc, l'homme envoie des messages au-delà du mur sans savoir comment ils sont reçus. Donc, c'est
voilà, tout la porte mystère, ouverte. Voilà, tout le mystère de la relation. Ouais. On continue, Claude, avec votre choix musical. Je crois qu'il intervient maintenant. Qu'avez-vous à nous proposer maintenant?
Alors, c'est la musique qu'on trouve dans ce film, qu'on entend surtout vers la fin d'Aga. Et c'est assez surprenant, d'ailleurs. Mais je trouve que finalement, parce que c'est la musique donc, qu'on entend majoritairement dans le film de Visconti qui s'appelle Mort à Venise. Au début, on se dit, mais qu'est-ce que ça fout là-dedans? Et je trouve que ça colle parfaitement avec la mélancolie du sujet, voilà, qui est différente évidemment de la mélancolie qu'on trouve dans Mort à Venise, mais finalement, je trouve que c'est un très bon choix.
Oui.
Et c'est ce qu'on va écouter. Donc, c'est
le
quatrième mouvement de la cinquième symphonie de Gustav Mahler.
On écoute et vous reprenez tout de suite la parole après, Claude.
Je n'entends pas les violons.
Alors, cette musique de Mahler va nous conduire tranquillement, il me semble, vers notre troisième film, Claude.
Oui, mais c'est Dieu seul me voit.
Dieu seul me voit de Bruno Podalides. Est-ce qu'on a le temps de lancer le générique que nous verrons?
Je laisse la parole à Ariel.
Nous laissons la parole à Ariel.
Oui, donc le Dieu seul me voit, c'est un film de Bruno Podalides. Alors c'est encore une histoire de famille, hein, puisque Bruno Podalides travaille beaucoup avec son frère Denis, qui est son principal interprète. Donc Bruno a 60 ans, il a commencé en réalisant des films d'entreprise et en 1992, son premier court-métrage Versailles, Rive Gauche remporte plusieurs récompenses et ce sera le début d'une trilogie ayant pour centre Versailles puisqu'ils sont originaires de cette ville, les Podalides. Et donc, le deuxième film, ce sera Dieu seul me voit, celui que nous allons voir, et Bon public. Et les deux ont en sous-titre Versailles. Donc, Versailles chantier pour Dieu seul me voit et Versailles rive droite pour le troisième. Ensuite, il a fait d'autres films, Liberté au Léron en 2000, et il a adapté les récits de Gaston Leroux, Le mystère de la chambre jaune, Le parfum de la dame en noir. Ensuite, Adieu Berthe et Comme un avion en 2012-2014. Il a vraiment trouvé son style, d'après moi, hein, mêlé de tendresse, d'humour et de désillusion. Ensuite, il y a eu Bécassine, là aussi c'était une adaptation hein, de l'histoire de Bécassine en 2018, et Les deux Alfred en 2020, alors qui est sorti au moment du début où les cinémas ont fermé, je ne l'ai pas vu. Donc, toujours avec Denis Podalides. Voilà. Donc, Dieu seul me voit est sorti en 98. Hein, c'est une comédie de 2 heures qui a eu le César de la première œuvre. Et pour moi, c'est vraiment, effectivement, un premier film. Je pense qu'il s'est il a bien peaufiné son style par la suite. Mais c'est l'intérêt d'une première œuvre qui donne un peu le ton à à ce personnage, à son monde. Et voilà, donc je pourrais dire, j'embraye ou bien vous avez quelque chose à dire, messieurs?
Oui, Claude. Voilà.
Oui, c'est effectivement son frère donc, qui joue cette espèce d'adolescent attardé. C'est ça. Le comique, en fait, il vient de ce personnage.
Alors, on attend parce que j'ai pas encore donné un peu le pitch du film. Donc, si tu veux, on parlera du personnage après.
Oui, d'accord. Hein,
d'accord. En tout cas, voilà, ce que je voulais dire, c'est que le scénario et les dialogues sont souvent ou toujours écrits par les deux frères. Hein, donc, l'un réalise, l'autre joue. Ils travaillent ensemble, mais Bruno dit que Denis n'est pas son double. Il fait référence à Truffaut, bien sûr. C'est pas lui qu'il veut mettre en scène. C'est vraiment un travail commun, fraternel. C'est vraiment l'esprit des deux frères. Donc l'histoire, c'est Albert qui est un perchiste qui travaille dans le cinéma d'entreprise. Il est perchiste. Et l'histoire se situe entre deux tours d'élections municipales. Donc Albert.
Oui, c'est Albert.
Est complexé par une calvitie naissante et c'est un éternel indécis. Donc il est entouré de copains, de collègues aussi bizarres, un peu obsédés que lui à la recherche de la femme idéale. Et il va faire trois rencontres, trois femmes qui vont mettre à l'épreuve son irrésolution maladive. Voilà, donc, oui, Claude, dis-moi.
Oui, c'est ça. Donc, il a une vingtaine d'années, tout juste, je pense, là-dedans. Et finalement, il a du mal à sortir de l'enfance et il a des difficultés donc, pour rentrer dans l'âge adulte. C'est sans problème, mais c'est à la fois la raison de ce film et ce qui donne ce côté burlesque au personnage et qui amène évidemment le rire puisqu'il se met dans des situations absolument inextricables et il est incapable de s'en sortir tout seul. En fait, c'est ça. C'est un velléitaire, hein, il veut faire des choses, mais il ne les fait pas. Et c'est ces femmes, finalement, qui va rencontrer et qui vont être mêlés d'ailleurs et les rencontres on les voit avec l'une tantôt avec l'autre donc elles sont on en reparlera je pense elles sont toutes tout à fait différentes et bizarrement c'est cet état finalement qui est séduit autrement dit il est séduit à la suite de son plein gré comme on disait à l'époque sur Canal il est un peu ahuri. Enfin, je pense qu'on pourrait trouver un tas de qualificatifs à son état, mais le résultat, quand même, c'est qu'il nous fait rire. Et c'est le plus important.
Et en particulier, il offre des cadeaux à ses femmes, et un objet en particulier va se retourner contre lui et va relancer l'action.
Oui, alors là, la symbolique des objets. C'est un ressort du film. Mais par rapport au personnage, c'est vrai que je crois que c'est Bruno Poldaïdès lui-même qui dit que c'est un film d'action d'un personnage bloqué, tétanisé. Voilà. Donc c'est un film d'action, il y a plein d'actions, il y a plein de retournements de situation, enfin ça bouge beaucoup, hein, on ne s'ennuie pas. Mais lui-même, il est tétanisé par le choix. Et en fait, c'est vrai que comme disait Claude, c'est vrai que son indécision le pousse dans des situations où l'autre trouvera pour lui la solution, en fait. Et l'autre, c'est la femme. C'est chaque fois, il rencontre en fait trois femmes et chaque femme va le débloquer un tout petit peu de son maladie, enfin, c'est vraiment une maladie pour moi. Hein. D'ailleurs, il est lui-même sujet à une réaction physique quand on s'intéresse trop à lui. Il a envie de vomir. Il supporte pas qu'on s'intéresse trop à lui. Il faut vraiment, quand on lui dit des mots doux, des mots gentils, il est malade. Donc il y a quand même quelque chose de comme pathologique. Hein.
Une dernière intervention d'Alain.
Et alors, finalement, c'est un séducteur, maladroit, mais séducteur. Donc à nous les hommes de retenir une possibilité d'avoir du succès.
Il arrive à ses fins, c'est vrai, hein. Dans la troisième femme qu'il rencontre, qui était la femme dont il fallait se méfier, la fille dangereuse, disait ses amis, c'est en fait elle qui le débloque. Et on ne sait pas ce qui séduit ces femmes.
Oui, alors ce personnage donc, qui est interprété par Jeanne Balibar, il nous est présenté comme une amante religieuse. Si je puis le dire, ouais. Mais voilà, c'est elle finalement qui peut-être l'emporte à la fin. Mais ce que je voudrais rajouter, c'est que c'est pas seulement les choses ou son comportement qui nous font rire, il y a aussi beaucoup de comiques des situations, parce que comme tu viens de dire, Ariel, il se passe un tas de choses dans ce film, et on se trouve toujours dans des situations où il y a toujours des clins d'œil qui font que... Je pense que c'était le début du film donc, qui se passe dans une école un jour de bureau de vote. Il y a toujours un tas de choses qui nous font rire. Moi, ce qui m'a beaucoup fait rire à un moment donné, c'est que les deux personnages principaux donc, qui font voter, celui qui vient voter et celui qui fait signer, ils se rencontrent à un moment donné, ils lui racontent, donc Albert, d'un air coquin, vous savez, vous êtes nouveau ici, mais nous, on s'amusait à une époque, on faisait un concours pour les plus belles jambes des femmes qui sont dans l'île de Loire.
Petit clin d'œil à Truffaut, je pense. Hein.
Maintenant, nous vous arrêtions, chers amis, pour ce numéro de Sine Qua Non. Trois films passionnants à voir et à revoir donc sur Arte TV, parce que c'est votre choix, tous les quatre, d'aller voir des films, même pendant cette période de d'inoccupation des lieux culturels.
Et merci. Ça, ce qu'on peut rajouter, c'est que tous ces films dont on a parlé sont encore donc, visibles sur Arte TV et gratuitement, et que régulièrement, donc, il y a des films nouveaux qui sont apportés donc, toutes les semaines, donc qu'on peut voir et dont on aura certainement l'occasion de reparler au mois d'avril.
Et remercions Arte d'avoir fait cette action culturelle remarquable.
Merci à tous, au revoir.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Ah, je t'ai pas dit, je vais rentrer. T'as raison. C'est vrai que c'est